Voilà, donc on va parler de l'esprit du monde et des pièges du monde chez Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. Le seul traité de l'esprit du monde qu'on trouve dans ses œuvres, eh bien, c'est finalement dans ses cantiques, dans les cantiques. Parce que, on l'a déjà dit, ses cantiques, c'est sa théologie pastorale. Il a versifié toute sa théologie, toute son expérience, et si on prend ses cantiques, eh bien, on remarque que l'ensemble de l'œuvre comporte différents traités. Et c'est toute la théologie qui est mise en vers dans ces cantiques. Donc on trouve des cantiques sur Dieu, l'enfant Dieu, la croix, Jésus hostie, le Sacré-Cœur de Jésus, la très sainte Vierge, les saints, sur la cèse, les désirs de la sagesse éternelle, les mépris du monde, les vertus, le renouvellement de notre âme par la mission, les états consacrés à Dieu, les états du monde, les états d'affliction, toutes sortes donc de cantiques qui abordent tous les sujets. Et on peut dire que chaque sujet a au moins un cantique, voire plusieurs cantiques, et que chaque cantique est un vrai traité. Il peut y avoir jusqu'à 100 strophes où Saint-Louis de Montfort reprend toute la théologie qu'il digère en vers. Alors il en profite pour digérer son bréviaire, toute son expérience, tout y passe. Il y a même des versets de l'Écriture sainte qui sont mis en vers, reformulés en vers dans ses chansons. C'est très très beau quand on connaît la liturgie. Il essaye de tirer profit de tout. Et donc, il y a un traité des vertus en vers qui se divise en, disons, deux grandes parties. Les malheurs du monde et des cantiques divers sur le monde. Donc on verra ça après avoir fait quelques préliminaires. Ceci dit, il y avait probablement un petit traité théorique de l'esprit du monde au début, juste avant le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Mais cette partie doit être perdue. On ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il y avait un petit traité sur l'esprit du monde? Eh bien, c'est ce paragraphe 227 du traité de la vraie dévotion, dans lequel il fait allusion, donc, à cette première partie, qui n'existe plus. C'est donc à partir du numéro 227, c'est là où il parle de la consécration et des exercices préparatoires. Alors, je vous lis ce paragraphe. Première pratique. Donc pour ceux qui veulent rentrer dans l'esprit de la consécration à la Sainte Vierge. Ceux et celles qui voudront entrer en cette dévotion particulière, qui n'est point érigée en confrérie, quoi qu'il le fût à souhaiter, après avoir, comme j'ai dit, dans la première partie de cette préparation au règne de Jésus-Christ, employé 12 jours au moins à se vider de l'esprit du monde, contraire à celui de Jésus-Christ, emploieront 3 semaines à se remplir de Jésus-Christ par la très sainte Vierge Marie. Donc, il dit bien que son traité de la vraie dévotion, ce n'est pas un titre qu'il a donné lui-même. Il semble bien que le titre supposé, ce serait « Préparation au règne de Jésus-Christ ». Eh bien, il y aurait eu une première partie, où il parle justement de se vider de l'esprit du monde, et puis la partie qu'on connaît, celle du traité de la vraie dévotion. Et dans la première partie de cette préparation au règne de Jésus-Christ. Alors on va essayer de Guyon Jeanne, il écrit à sa sœur qui est religieuse. « Dieu prend plaisir, ma chère sœur, à nous voir combattre et à nous rendre tous deux victorieux, vous dans le secret et moi dans le public. Bon, » elle est religieuse, donc elle a une vie cachée. Lui, il est missionnaire, il a une vie publique. « Car vos combats se passent dans vous-même. Ils n'éclatent pas hors de votre communauté. Mais les miens éclatent par toute la France. » Soit à combattre les démons de l'enfer, soit à faire la guerre au monde et aux mondains, ennemis de toute vérité. Vous seriez sans doute surprise si vous saviez le détail de l'aimable croix dont le ciel me favorise par l'intercession de notre bonne mère. Je vous prie d'en remercier mon aimable Jésus et de prier votre aimable communauté, que je salue, de m'obtenir de Jésus crucifié la force de porter les plus rudes croix et les plus pesantes comme des pailles, de résister avec un front d'airain aux puissances infernales. Donc là, vous voyez, il parle bien de faire la guerre au monde et aux mondains, ennemis de toute vérité. On est loin de Vatican II, ça. Alors, une première approche que je vous propose de son esprit du monde, c'est dans le traité de la vraie dévotion, au numéro 54. Saint-Louis de Montfort donne le fondement de ce combat contre le monde, et il le commente. Alors, ce fondement, c'est quoi ? C'est Genèse 3.15. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme et ta descendance. Entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Alors, au numéro 54, il explique ça. C'est qu'une partie du commentaire, mais je vous le donne parce qu'il parle du monde, là. Non seulement Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés, non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. Vous voyez, quand de dire que Dieu ne veut pas de division, il ne veut pas de combat, c'est complètement faux. Il n'y a rien de plus faux que de dire ça. C'est le proto-évangile, troisième chapitre de la Genèse, verset 15. Dieu instaure une inimitié, donc une division. Donc Dieu fonde une division. Dieu veut la division. Alors, entre quoi et quoi ? Voilà le problème. Mais Dieu veut la division. Et il dit même que cette inimitié, elle est toute divine. Et c'est la seule que Dieu a instituée. Mais celle-là, elle va durer jusqu'à la fin du monde, et loin de s'amenuiser, de disparaître, elle va augmenter et s'aggraver. C'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés et des antipathies, des haines secrètes, écoutez bien ça, c'est des mots qu'il faut peser, hein, entre les vrais enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et les esclaves du diable. Alors on verra, les enfants et les esclaves du diable, c'est pas que les satanistes, etc. Hein. Vous allez voir ce qu'il dit exactement, justement, des mondains. Et les mondains, aujourd'hui, ben, le monde en est plein. Faut pas croire, c'est pas que les satanistes. Ils ne s'aiment point mutuellement. Donc c'est pas la peine de leur faire des courbettes. Ils ne s'aiment point mutuellement. Et si vous faites des courbettes, ben, ils vous marcheront sur les pieds. Parce que le monde n'aime pas les enfants de Jésus-Christ. Donc c'est toujours les enfants de Jésus-Christ qui se font rouler dans la boue si jamais ben, ils commencent à faire des courbettes. C'est comme ça que ça marche. Il y a même une fable de La Fontaine là-dessus, qui est excellente. Pourtant, il ne parle à rien de religieux, fait ça avec des animaux. Mais c'est exactement ça, c'est vraiment extraordinaire. Ils ne s'aiment point mutuellement, ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Les enfants de Bélial, écoutez bien ça, les esclaves de Satan, et ce n'est pas les satanistes, les amis du monde, car c'est la même chose. Quand au concile, le grand maître mot, le leitmotiv, ça a été l'ouverture au monde. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan et les amis du monde, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge, comme autrefois Caïn persécuta son frère Abel et Ésaü son frère Jacob, qui sont les figures des réprouvés et des prédestinés. Donc il faut bien poser ça, quoi. C'est très important. Il faut comprendre que dans le monde, il y a le bon grain et l'ivraie, que l'ivraie, c'est pas seulement les satanistes, mais aussi les amis du monde, donc les gens mondains, bon chic, bon genre, et qu'il y a une opposition diamétrale entre l'esprit des uns et l'esprit des autres. Que chacun a des principes différents de vie, et que chacun a une vie différente, et qu'il y a une inimitié, une incompatibilité entre les deux. On ne peut pas être en les deux. Justement, les amis du monde, c'est les catholiques qui prétendent être entre les deux. Rester catholique en voulant plaire au monde. Eh bien, cela, c'est la même chose que les esclaves de Satan. Ça, c'est un saint qui le dit. Hein. Et ça n'a pas changé, au contraire. Ça a empiré. Alors, deuxième approche, on voit un petit peu la doctrine de l'amour du monde. Alors ça, c'est dans le traité de l'amour de la sagesse éternelle. Donc il va parler de la sagesse éternelle, c'est Jésus-Christ, de sa doctrine, de sa vie, et il parle justement au début de la fausse sagesse. Vous vous souvenez, dans le traité de la vraie dévotion, il y a la vraie dévotion et la fausse dévotion. Ben là, il reprend le même refrain, le même couplet. C'est donc la vraie sagesse et la fausse sagesse. La sagesse mondaine. Donc alors, c'est quoi cette sagesse mondaine ? Donc c'est dans Amour de la sagesse éternelle. Il parle de ça, 75-83. Non, je vais vous lire, hein, c'est un peu une lecture spirituelle. La sagesse mondaine est celle dont il est dit. Alors il cite Saint Paul aux Corinthiens. Perdam sapientiam sapientium. Je perdrai la sagesse des sages, selon le monde. La sagesse, saint Paul aux Romains, la sagesse de la chair est ennemie de Dieu. Et en saint Jacques, chapitre 3, verset 13, plutôt 15 même, c'est bien là, c'est purement matériel, c'est pas intentionnel, je pense, mais Genèse 3, 15, saint Jacques 3, 15, c'est la même référence. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est un commentaire, donc saint Jacques 3, 15, c'est un commentaire de saint Jacques de Genèse 3, 15. Cette sagesse ne vient pas du ciel, mais elle est une sagesse terrestre, animale et diabolique. Cette sagesse du monde est une conformité parfaite aux maximes et aux modes du monde. C'est une tendance continuelle vers la grandeur et l'estime. C'est une recherche continuelle et secrète. Et ça, il a une psychologie pour montrer tout tradit qu'on est, tout pratiquant qu'on est. Quand on voit ce qu'il dit, on se dit, oh là là, on se voit comme dans un miroir, je peux vous dire. Alors, une tendance continuelle vers la grandeur et l'estime, c'est une recherche continuelle et secrète de son plaisir et de son intérêt. Non pas d'une manière grossière et criante, en commettant quelques péchés scandaleux, mais d'une manière fine, trompeuse et politique. Autrement, ce ne serait plus, selon le monde, une sagesse, mais un libertinage. Donc vous voyez, là, il dit, non, je ne parle pas du libertinage, quoi, les groupes, vraiment les gens qui vivent dans le vice, ouvertement, qui font des péchés criants et tout. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la sagesse du monde. C'est une recherche, donc une tendance continuelle vers la grandeur et l'estime, une recherche continuelle et secrète de son plaisir et de son intérêt, non pas d'une manière grossière, mais d'une manière fine, trompeuse et politique. Donc subtile et déguisée, en fait. Un sage du siècle est un homme qui sait bien faire ses affaires et faire réussir tout à son avantage temporel, sans quasi paraître vouloir le faire, qui sait l'art de déguiser et de tromper finement sans qu'on s'aperçoive, qui dit ou fait une chose et pense l'autre, qui n'ignore rien des airs et des compliments du monde, qui sait s'accommoder à tous pour en venir à ses fins, sans se mettre beaucoup en peine de l'honneur et de l'intérêt de Dieu, qui fait un secret mais funeste accord entre la vérité et le mensonge, de l'évangile avec le monde, de la vertu avec le péché, de Jésus-Christ avec Bélial, qui veut passer pour un honnête homme, mais non pas pour un dévot, qui méprise, empoisonne ou condamne aisément toutes les pratiques de piété, qui ne s'accommode pas avec les siennes. Enfin, un sage mondain est un homme qui, ne se conduisant que par la lumière des sens et de la raison humaine, ne cherche qu'à se couvrir des apparences de chrétien et d'honnête homme, sans se mettre beaucoup en peine de plaire à Dieu, ni d'expier par la pénitence les péchés qu'il a commis contre sa divine majesté. Donc vous voyez, finalement, c'est quelqu'un qui manque d'esprit surnaturel et d'esprit de foi. Il calcule tout le temps. La conduite de ce sage du monde est fondée sur le point d'honneur, sur le qu'en dira-t-on, sur la coutume, sur la bonne chère, sur l'intérêt, sur le grand air et sur le mot à rire. Ce sont là les sept mobiles innocents, comme il croit, sur quoi il se tient appuyé pour mener une vie tranquille. Il a des vertus particulières qui le font canoniser des mondains, comme la bravoure, la finesse, la politique, le savoir-faire, la galanterie, la politesse et l'enjouement. Il prend pour des péchés considérables l'insensibilité, la bêtise, la pauvreté, la rusticité et la bigoterie. Alors il suit le plus fidèlement qu'il peut les commandements que le monde lui a faits. Alors les 10 commandements du mondain, ça c'est excellent. Tu sauras bien le monde, donc tu seras au courant des choses du monde. Voilà. Tu vivras en honnête homme. Tu feras bien tes affaires. Tu conserveras ce qui t'appartient. Tu sortiras de la poussière. Tu te feras des amis. Tu entreras le beau monde. Tu feras bonne chère. Tu n'engendreras point de mélancolie. Alors la mélancolie, il faut voir dans l'esprit de Saint-Louis de Montfort, c'est quelqu'un de pieux qui aime ses prières, le silence, l'oraison, tout ça. Ça, c'est la mélancolie du mondain, quoi. Et donc, il faut absolument fuir ça. Et tu éviteras la singularité, la rusticité, la bigoterie. Jamais le monde n'a été si corrompu qu'il l'est, parce que jamais il n'a été si fin, si sage à son sens, ni si politique. Il se sert si finement de la vérité pour inspirer le mensonge, de la vertu pour autoriser le péché, et des maximes même de Jésus-Christ pour autoriser les siennes, que les plus sages selon Dieu y sont souvent trompés. C'est la perversion en fait. On utilise l'évangile pour vivre selon le monde. On utilise la vertu pour cacher ses péchés. On utilise la vérité pour cacher le mensonge. C'est vraiment une perversion d'évangile, en fait. Le nombre de ces sages selon le monde ou de ces folles selon Dieu est infini. Ça, c'est l'Écriture sainte. C'est dans un des livres de la sagesse. Le nombre des fous est infini. Et le nombre de mondains, il dit, c'est infini. Alors après, il commande Saint Jacques, la sagesse terrestre dont parle Saint Jacques, et l'amour des biens de la terre. C'est de cette sagesse dont les sages du monde font une profession secrète, quand ils attachent leur cœur à ce qu'ils possèdent, quand ils tâchent de devenir riches, quand ils intentent des procès et font des chicanes inutiles pour les avoir ou pour les conserver, quand ils ne pensent, ils ne parlent, ils n'agissent la plus grande partie du temps que dans la vue d'avoir ou de conserver quelque chose de temporel, ne s'appliquant à faire leur salut et aux moyens de le faire, comme la confession, la communion et l'oraison, qu'à la légère, par manière d'acquis, par intervalle et pour sauver les apparences. La sagesse charnelle et l'amour du plaisir, c'est de cette sagesse dont les sages du siècle font profession quand ils ne cherchent que les plaisirs des sens, quand ils aiment la bonne chair, quand ils éloignent de soi tout ce qui peut mortifier ou incommoder le corps, comme les jeûnes, les austérités, etc. Quand ils ne pensent plus ordinairement qu'à boire, qu'à manger, qu'à jouer, qu'à rire, qu'à se divertir et qu'à passer agréablement son temps. Quand ils recherchent les lits mollets, les jeux divertissants, les festins agréables et les belles compagnies. Et après que sans scrupule ils ont pris tous ces plaisirs, qu'ils ont pu prendre sans déplaire au monde et sans incommoder leur santé, ils cherchent le confesseur le moins scrupuleux, c'est ainsi qu'ils nomment les confesseurs relâchés qui ne font pas leur devoir. Il faut peser ça. Après avoir fait tout ça, ils cherchent les confesseurs le moins scrupuleux, alors il y a des guillemets, là ça veut dire quoi? C'est ainsi qu'ils nomment les confesseurs relâchés qui ne font pas leur devoir, afin d'avoir de lui à bon marché la paix dans leur vie molle et efféminée et l'indulgence plénière de tous leurs péchés. Ah là 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 là. Je dis à bon marché, car ces sages selon la chair ne veulent ordinairement pour pénitence que quelques prières ou quelques aumônes haïssant ce qui peut affliger le corps. Alors ensuite, la sagesse diabolique. Donc il commente, cette sagesse qui vient de zèle amer, cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. C'est les trois concupiscences. Alors, sagesse diabolique. C'est l'amour et l'estime des honneurs. C'est de cette sagesse dont les sages du siècle font profession quand ils aspirent, quoique secrètement, aux grandeurs, aux honneurs, aux dignités et aux emplois relevés. Quand ils recherchent à être vus, estimés, loués et applaudis des hommes, quand ils n'envisagent dans leurs études, dans leurs travaux et dans leurs combats, dans leurs paroles et dans leurs actions, que l'estime et la louange des hommes, pour passer pour des personnes dévotes, pour des gens savants, pour des grands capitaines, pour des savants jurisconsultes, pour des gens d'un mérite infini et distingué ou de grande considération, quand ils ne peuvent souffrir qu'on les méprise et qu'on les blâme, quand ils cachent ce qu'ils ont de défectueux et font montre de ce qu'ils ont de beau. Il faut, avec notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse incarnée, détester et condamner ces trois sortes de sagesse fausses pour acquérir la véritable, qui ne cherche point son propre intérêt, qui ne se trouve point dans la terre et dans le cœur de ceux qui vivent à leur aise, et qui a en abomination tout ce qui est grand et relevé devant les hommes. Alors la fin, là, bon, je saute toute la sagesse éternelle, parce qu'après il parle de Jésus-Christ, on verra une autre fois ça. Dans la lettre aux amis de la croix, il dit ce que Dieu pense de ça. C'est au numéro 6. Voilà ce que dit Dieu. « Séparez-vous, mon peuple choisi, chers amis de la croix, de mon fils, séparez-vous des mondains. » Donc ce n'est pas des satanistes, hein, c'est des mondains, des amis du monde. « Maudits de ma majesté. » Là, il applique ça à Dieu le Père. « Excommuniés de mon fils. » C'est Dieu le Père qui parle. « Et condamnés par mon Saint-Esprit. » « Prenez garde de vous asseoir dans leur chair tout empestée. » Il cite un psaume là. « N'allez point de leurs conseils. » Ne vous arrêtez pas même dans leur chemin. C'est les trois degrés qu'on descend dans l'iniquité. N'allez pas vous asseoir dans leur chair tout empestée. N'allez point dans leur conseil. Ne vous arrêtez même pas dans leur chemin. S'arrêter dans le chemin, c'est le péché occasionnel. Aller dans leur conseil, c'est commencer à prendre l'habitude. Et s'asseoir dans leur chair tout empestée, c'est vraiment s'installer dans le vice. Alors après, il donne à la fin de l'amour de la sagesse éternelle, il donne une petite exhortation, là. On va vous lire ça. 198. Il ne faut pas se conformer aux modes extérieurs des mondains. Soit dans les habits, soit dans les meubles, soit dans les maisons, soit dans les repas, et les autres usages et les actions de la vie. Et ici de saint Paul, « Nolite conformari uic seculo ». Ne vous conformez pas au siècle. Ça, c'est le plus pur évangile, la plus pure doctrine de saint Paul. Cette pratique est plus nécessaire qu'on ne pense. Il ne faut pas croire ni suivre les fausses maximes du monde. Il ne faut pas penser, il ne faut pas parler et agir comme les mondains. Ils ont une doctrine aussi contraire à celle de la sagesse incarnée que les ténèbres à la lumière et la mort à la vie. Examinez bien leurs sentiments et leurs paroles. Ils pensent et ils parlent mal de toutes les plus grandes vérités. Il est vrai qu'ils ne mentent pas ouvertement. Mais ils déguisent leurs mensonges sous l'apparence de la vérité. Ils ne croient pas mentir, mais ils mentent cependant. Ils n'enseignent pas ordinairement le péché ouvertement. Mais ils le traitent ou de vertu ou de netteté. Ou de choses indifférentes ou de peu de conséquences. Vous voyez ? Soit on prend pour pas pécher ce qui est péché, soit on prend pour véniel ce qui est mortel, ou pour indifférence ce qui est déjà péché véniel, ou on fait peu cas de l'imperfection et du péché. On minimise et on relativise. Méfiez-vous des gens qui minimisent et qui relativisent. Il arrive quelquefois qu'on soit un petit peu trop fort, on se corrige, mais il faut se méfier, ça c'est un principe du monde, on relativise et on minimise. Oui, il ne faut pas aller si loin, mais non. Pensez, mais non, vous exagérez. Ça, c'est typique du discours mondain. Typique. Et Ernest Hello, dans L'homme médiocre, il me semble que c'est là que j'ai lu ça. Le maître mot de l'homme médiocre, et donc du libéral et du mondain, c'est il exagère. Tout est exagéré. Dès que vous affirmez une vérité, vous êtes tranchant, vous êtes cassant. Dès que vous faites pratiquer les commandements, vous êtes scrupuleux et vous êtes triste. Ça, c'est typique du discours mondain. Vous ouvrez le Figaro, etc., tous les articles de journaux mondains, c'est le discours que vous trouvez. Là où on veut imposer la vérité, on devient intolérant. Là où on veut imposer les vertus, les commandements, on devient scrupuleux. Vous voyez, c'est le discours typique du mondain. Et c'est tout à fait applicable aujourd'hui, hein, plus que jamais. Quoi, plus que jamais. Oui. C'est en cette finesse que le monde a apprise du démon. Écoutez bien ça. Cette finesse, donc, cette manière de déguiser le vice par la vertu, de couvrir le mensonge sous la vérité, donc sous cette perversion, quoi. C'est en cette finesse que le monde a apprise du démon. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient du diable, ça. Pour convertir la laideur du péché et du mensonge, que consiste cette malignité dont parle saint Jean, tout le monde est posé dans la malignité. Tout le monde est pénétré de malignité et à présent plus que jamais. Vous voyez, c'est le démon qui a appris ça. Et alors c'est typique à Halloween en ce moment. On vous présente le laid, le diabolique, le satanique, le triste, le dégoûtant, tout ce que vous voulez. On vous le présente d'une façon agréable, joyeuse et puis à la mode. Ben ça c'est typique du monde. Et on voit bien quand on discute avec les gens, bon, on essaye de ne pas être passionné, de discuter, etc. Alors finalement, comme on discute de façon sympa, on finit par les trouver sympas, puis on trouve sympa les gens qui propagent ça, quoi. On est pris là-dedans, ça nous prend malgré nous, quoi. Bon, alors, donc, vous avez compris, il faut bien comprendre ça, c'est la révélation, c'est l'évangile, c'est la doctrine du Christ, et c'est la doctrine. Vous voyez, saint Jacques, il dit aussi, celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. C'est dans saint Jacques, ça. Celui qui veut être l'ami du monde se constitue l'ennemi de Dieu. On ne peut pas plaire au monde, il faut se mettre ça une bonne fois pour toutes dans la tête. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on doit se heurter à tout le monde, être désagréable avec tout le monde. Mais il faut savoir que si on vit son christianisme, on sera nécessairement désagréable au monde à un moment donné. Et si on veut toujours être agréable au monde, c'est signe qu'il y a un moment où on va lâcher, où on a déjà lâché ce qu'on ne pouvait pas lâcher. Ça, c'est certain. Alors, donc, voyons un petit peu la lettre aux amis de la croix, parce que là, justement, Saint-Louis de Montfort, il place les âmes devant un choix. Là, il est concret, quoi. C'est pas, bon, alors c'est beau, on lit tout ça, ça nous titille les oreilles, oh, quelle psychologie magnifique. Non, attendez, il faut revenir au concret, quoi, dans notre vie concrète. Alors, c'est très beau, là, c'est en fait, vous savez que Saint-Louis de Montfort a fait les exercices Saint-Ignace. Et alors dans la lettre aux amis de la croix, eh bien, en fait, on retrouve Saint-Ignace, mais autrement. Vous voyez, les deux étendards de Saint-Ignace, il présente ça sous la forme des deux parties. Les deux parties. Alors je vous lis ça parce que c'est admirable. J'ai déjà lu l'année passée, mais il faut relire ça, c'est le sujet. Voilà, mes chers confrères, il parle aux confrères de confrérie des Amis de la Croix. Voilà deux parties qui se présentent tous les jours. Celui de Jésus-Christ et celui du monde. Celui de notre aimable Sauveur est à droite, en montant, dans un chemin étroit et retréci, plus que jamais, par la corruption du monde. C'est l'Évangile, hein ? Elle est large, la voie spacieuse qui mène à la perdition. Mais le chemin de Dieu est étroit. Ce bon maître y est en tête, marchant les pieds nus, la tête couronnée d'épines, le corps tout ensanglanté et chargé d'une lourde croix. Il n'y a qu'une poignée de gens, mais des plus vaillants, à le suivre, parce qu'on n'entend pas sa voix si délicate au milieu du tumulte du monde. Ça, c'est excellent. C'est digne. Au milieu du tumulte du monde, on n'entend pas sa voix. Quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une petite poignée de gens qui le suivent. Ou on n'a pas le courage de le suivre dans sa pauvreté, ses douleurs, ses humiliations et ses autres croix qu'il faut nécessairement porter à son service tous les jours de sa vie. Alors après, il change de vue. À gauche est le parti du monde ou du démon, lequel est le plus nombreux, le plus magnifique et le plus brillant, du moins en apparence. Tout le plus beau monde y court, on y fait presse, quoique les chemins soient larges et plus élargis que jamais par la multitude qui y passe comme des torrents. Ils sont jonchés de fleurs, bordés de plaisirs et de jeux, couverts d'or et d'argent. Deux chemins. Alors il repart à droite après. À droite, le petit troupeau qui suit Jésus-Christ ne parle que de larmes, de pénitence, d'oraison et de mépris du monde. On entend continuellement ces paroles entrecoupées de sanglots. Souffrons, pleurons, jeûnons, prions, cachons-nous, humilions-nous, appauvrissons-nous, mortifions-nous, car celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, qui est un esprit de croix, n'est point à lui. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leur concupiscence. Il faut être conforme à l'image de Jésus-Christ ou être damné. Courage, s'écrie-t-il, courage, si Dieu est pour nous, et en nous, et devant nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le serviteur n'est pas plus que le maître. À un moment d'une légère tribulation, produit un éternel poids de gloire. Il y a moins d'élus qu'on ne pense. Ça, c'est tout ce que disent ceux qui suivent Jésus-Christ. Il n'y a que des courageux et violents qui ravissent le ciel de vive force. Vous voyez, c'est tout ça, c'est des citations d'évangiles digérées, quoi. Le royaume des cieux souffre violence et ce sont les violents qui le remportent. Personne n'y sera couronné que celui qui aura combattu légitimement selon l'Évangile, et non pas selon la mode. Combattons donc avec force. Courons bien vite, afin que nous atteignions le but, afin que nous gagnions la couronne. Tout ça, c'est un tissu de citations de saint Paul et tout ça. Voilà une partie des paroles divines dont les Amis de la Croix s'animent mutuellement. Alors, ils repassent au monde. Bon, vous voulez faire une application pratique, hein. J'ai rien entendu, hein. Mais si vous voulez faire une application pratique, donc il y a eu plusieurs sermons sur le péché, etc. Il y en aura encore sur l'enfer et tout. On n'a qu'à écouter ce que disent les gens. Ceux qui se plaignent et qui souffrent, c'est probablement qu'ils sont remplis d'esprit du monde. C'est une application pratique. J'ai rien entendu, je vous le dis, hein. Donc je suis au-dessus de tout soupçon, je vise personne. Mais les gens qui sont en train de se plaindre des sermons du dimanche à cause des sujets, c'est des gens qui ont l'esprit mondain. Certains. Certains, certains, certains. Alors, on continue. À droite, il recommence. Ah non, les mondains, voilà. Les mondains, au contraire, pour s'animer à persévérer dans leur malice sans scrupule, crient tous les jours, la vie, la paix, la joie, mangeons, buvons, chantons, dansons, jouons. Dieu est bon, Dieu ne nous a pas fait pour nous damner, Dieu ne défend pas de se divertir, nous ne serons pas damnés pour cela, point de scrupule, nous ne mourrons pas. Ça c'est. Alors il s'adresse ensuite aux confrères de la croix. Souvenez-vous, mes chers confrères, que notre bon Jésus, oui, souvenez-vous, mes chers confrères, que notre bon Jésus vous regarde à présent et vous dit à chacun en particulier. Voilà Jésus qui parle. Voilà que quasi tout le monde m'abandonne dans le chemin royal de la croix. Les idolâtres aveugles se moquent de ma croix, comme d'une folie. Les juifs obstinés s'en scandalisent, comme d'un objet d'horreur. Les hérétiques la brisent et la battent comme une chose digne de mépris. Mais ce que je puis dire, que les larmes aux yeux et le cœur percé de douleur, mes enfants que j'ai élevés dans mon sein et que j'ai instruits à mon école, mes membres que j'ai animés de mon esprit, m'ont abandonné et méprisé en devenant les ennemis de ma croix. Donc vous voyez, on reste dans notre optique, hein. Il ne vise pas les satanistes, les mahométans, les hérétiques, les juifs. C'est pas de ça dont il parle. Il dit ça, bon, après tout, c'est presque normal. Il dit, ce sont mes enfants que j'ai élevés dans mon sein, que j'ai instruits à mon école. Mes membres que j'ai animés de mon esprit m'ont abandonné et méprisé en devenant les ennemis de ma croix. Et ça, il le dit, les larmes aux yeux et le cœur percé de douleur. Vous voyez, ces catholiques mondains, c'est ça qui fait pleurer le bon Dieu. Voilà ce qu'il dit. Alors il interpelle ensuite, c'est notre Seigneur, c'est l'évangile ça, hein, notre Seigneur qui dit à ses apôtres après le discours sur le pain de vie, alors vous aussi vous allez m'abandonner? Ça c'est le plus pur évangile, hein, faut pas dire c'est bon, c'est son truc, c'est son spiritualité, c'est le plus pur évangile. Tout est vraiment... Alors d'ailleurs... Une des choses qui n'est pas comprise d'ailleurs par beaucoup de biographes, c'est que Saint Léonfort a pris l'évangile à la lettre, quoi, pratiquement. C'est pour ça qu'on l'a traité de déséquilibré, enfin pas déséquilibré, mais il était fort critiqué, quoi, pour ça. Alors il dit ceci. Voulez-vous point aussi, vous autres, m'abandonner en fuyant ma croix, comme les mondains, qui sont en cela autant d'antéchrist? Alors là, c'est très fort, parce que. Pour nous, l'antéchrist, ben, c'est un sataniste. Non. Les antéchrists, pour Saint Louis de Montfort, il dit que les mondains, les catholiques mondains, sont des antéchrists. C'est pour ça que Mgr Lefebvre, dans une de ses... dans la lettre, je pense, aux futurs évêques, il dit que les tenants de la doctrine conciliaire sont des antéchrists. Quoi. Je ne sais plus exactement les termes, mais c'est ça. On l'a critiqué pour ça. C'est vraiment tout à fait conforme à la spiritualité des saints. Oui. Voulez-vous, afin de vous conformer à ce siècle présent, mépriser la pauvreté de ma croix pour courir après les richesses, éviter la douleur de ma croix pour rechercher les plaisirs, haïr les humiliations de ma croix pour ambitionner les honneurs? J'ai beaucoup d'amis en apparence qui protestent qu'ils m'aiment et qui, dans le fond, me haïssent parce qu'ils n'aiment pas ma croix. Beaucoup d'amis à ma table, mais très peu de ma croix. Beaucoup d'amis à la dernière scène, mais très peu d'amis au pied du calvaire. Beaucoup d'amis pour communier, mais très peu d'amis pour souffrir, en union avec le Christ. Et alors après, il commente, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte ma croix, qu'il me suive, c'est tout un commentaire. Bon, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc vous voyez, il faut bien... comprendre que cette... je résume donc pour... Genèse 3.15, c'est Dieu qui instaure une inimitié pour diviser les bons avec les mauvais. Cette prophétie se réalisera à la lettre au jugement dernier, hein, on va croire. Il n'y aura pas de milieu, hein. On ne pourra pas être au milieu, on sera ou à droite ou à gauche. Donc la sagesse mondaine, bah, c'est une sagesse qui suit les trois concupiscences de la chair. Et alors justement, cette sagesse mondaine, bah, c'est de déguiser le mensonge sous couvert de vérité, de déguiser le vice sous couleur de vertu. Ouais, c'est pas les satanistes, c'est des gens qui veulent plaire au monde tout le temps. Et il dit que ces gens-là sont dans l'Église catholique. Ce sont des gens qui pratiquent, ce sont des gens qui font profession de christianisme, mais qui sont en fait des ennemis de Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Alors bon, on arrive au cantique maintenant, si vous voulez bien. Alors c'est trop long, je ne peux pas tout lire. Mais vraiment, c'est assez succulent. Quoi. Alors, je vous donne un petit peu le plan. Vous allez voir, ça peut faire une application pour aujourd'hui. Donc, alors là, il décrit, il fustige, il se moque, enfin, il fait tout. Quoi. Les mondains passent à la moulinette. Alors, il parle d'abord des pièges du monde. Alors dans ces pièges, il y a un cantique à chaque fois, un cantique pour les jeux de hasard. Bon, disons, c'est l'amour de l'argent. Hein. Pour la danse et les balles. Alors là, on pourrait mettre musique, boîte de nuit, compagnie, quoi. Rock, tout ce que vous voulez. Les comédies, les spectacles. Cinéma, théâtre, tout ce que vous voulez. Le luxe. Alors la mode, entre autres. Le respect humain. Et là, il y a cinq cantiques sur le respect humain. Alors les cinq cantiques, c'est 1, les maux que produit le respect humain, la misère de celui qui est pris par ça, quoi. Les chimères, donc le respect humain, c'est un fantôme, en fait. On se monte un truc dans la tête, et ça nous paralyse alors que ça n'existe pas. C'est le candidaton, si vous voulez. Les hontes, alors les hontes que produit le respect humain, ça c'est excellent. Les critiques que font ceux qui ont du respect humain, etc. Les causes du respect humain. Alors après, il y a un cantique sur les dérèglements de Rennes, donc il décrit tous les désordres qu'il y avait à Rennes parce qu'il a été là-bas. Et ensuite un cantique, les dégoûts du monde que je n'ai pas retrouvé, parce que je n'ai pas la correspondance, il y a différentes numérotations, puis je n'ai pas retrouvé. Bon, alors on peut lire quelques passages, si vous voulez. Cantique 29, toute une série, donc de 29 à... 39, après 156, 106, 107, 150. Alors, cantique 29. Alors, pour vous donner une idée, hein, 92 couplets. Je sais pas comment il faisait. Alors, il reprend, tout, c'est, alors c'est, tout y passe, quoi. Hein, c'est... Grand Dieu ! Alors, il y a toujours un refrain, tout ça, bon... Grand Dieu, donnez-nous du secours, armez-nous de votre tonnerre, le monde nous fait tous les jours, partout, une cruelle guerre. C'est l'ennemi le plus malin, parce qu'il est le plus humain. Amis de Dieu, braves soldats, unissons-nous, prenons les armes, ne nous laissons pas mettre à bas, combattons le monde et ses charmes, puisque Dieu même est avec nous, nous le vaincrons, combattons tous. Ça c'est, vous voyez, c'est une strophe qui met en vers la parole du Christ, courage et vaincu le monde. Il digère l'évangile de la doctrine catholique dans les vers. Quoi. Armons-nous de la vérité contre les amis du mensonge, faisons-leur voir par charité que tous leurs biens ne sont qu'un songe. Armons-nous d'une vive foi et nous leur ferons à tous la loi. Mais pour être vraiment vainqueur et pour avoir tout l'avantage, vidons nos esprits et nos cœurs des faux préjugés du bas âge. Vomissons ce cruel venin, ou bien nous combattrons en vain. Qu'est-ce que ce monde trompeur ? C'est l'assemblée universelle des pécheurs qui font au sauveur une guerre horrible et cruelle, quelquefois tout ouvertement, mais le plus souvent secrètement. Voyons, on retrouve toute la doctrine. Il est nommé du Saint-Esprit, la chair de la pestilence, le chemin large où l'on périt, sans qu'on le croie ou qu'on y pense, la synagogue de Satan et le règne de ce tyran. La grande église des malins, l'infâme et grande Babylone, où les démons en souverain sont finement mis sur le trône, où tous les biens sont empêchés, où l'on enseigne tous les péchés. Le monde est Satan travesti, afin de se rendre agréable, c'est son armée et son parti, pour être un prince formidable, pour enrôler tout l'univers, à le suivre dans les enfers. Ça, typique d'Halloween, c'est une application à la lettre, quoi. Le monde est Satan travesti, afin de le rendre agréable. Ça, c'est exactement ça. Ô Dieu qu'il enrôle de gens dans ce parti tout diabolique, mille petits, 10 000 grands. Ça, vous voyez, c'est un verset d'Absaume. C'est dans les complis du dimanche. 1 000 à droite, 10 000 à gauche, etc. C'est magnifique, quoi. Le paysan et le politique, le demi-dévot et des savants, des libertins et des bons vivants. Leur père maître est le démon qui les anime et les entraîne. Ils n'offensent Dieu qu'en son nom. Quoi qu'ils croient l'avoir en haine, il en est le prince et le roi. En cachette, il leur fait la loi. Le monde attaque à Jésus-Christ, tout le temps qu'il vécut sur la terre, il est tous les jours antéchrist, tous les jours il lui fait la guerre, tous les jours il le contredit dans ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Bon, alors je saute un petit peu, on pourrait tout lire, hein, vous savez, on passe des heures à se régaler de ça, c'est très bon. Quoi. Alors je prends le 24. Le monde est dans l'aveuglement, et le malheureux se croit sage, il est dans l'endurcissement, quiconque le reprend l'outrage, hélas il ne voit ni n'entend, c'est ce qui fait son mal très grand, à l'aveuglement du monde. Ne prend-il pas le mal pour le bien, l'utile pour le dommageable, pour un bonheur ce qui n'est rien, et pour un faux et pour faux un bien véritable, tant ses erreurs l'ont aveuglé, tant ses péchés l'ont déréglé. Alors, Cet aveugle est fier et hardi, il ne veut pas qu'on le reprenne, quoiqu'il soit un grand étourdi. À le reprendre, on perd sa peine, il est ainsi qu'il est écrit, incapable du Saint-Esprit. Chose étonnante, il ne peut pas recevoir aucune lumière, il restera jusqu'au trépas, ainsi que le diable son père, impie, orgueilleux, scandaleux, aveugle, endurci, malheureux. Bon, vous avez Cantique 29, je vais prendre verset 70. Que ce maudit m'ont détrompé, il perd tout le temps de la vie, ou bien il est tout occupé à faire quelques niaiseries. S'il n'est pas dans l'oisiveté, il s'occupe à l'iniquité. Il est toujours dans le dehors, sans tourner vers Dieu sa pensée. Il est tout occupé du corps, et sa pauvre âme est délaissée. Il méprise le vrai bonheur, il s'occupe d'un bien trompeur. Donc, il y a toute une série comme ça. Au grand aveugle, ou l'imposteur, au ciel il préfère la terre, la créature au créateur, à la paix de son Dieu la guerre, le mensonge à la vérité, et le temps à l'éternité. On entend parler nuit et jour de la gazette et des nouvelles, et de l'armée et de la cour, et de mille autres bagatelles, d'argent, de repas d'ornement, de jeux d'habits et de passe-temps. Les sujets de conversation du monde. Il n'est qu'esprit, il n'est qu'ardeur pour les affaires temporelles, mais que bêtise et que tiédeur dans les affaires éternelles. Quand il joue, il aime à veiller. Quand il prie, il faut l'éveiller. C'est excellent. Quand il joue, il aime à veiller. Et quand il prie, il faut l'éveiller. C'est sûr, c'est rien. Hein. Il y a tous des passages où il critique la tenue des femmes mondaines. Il faut voir ça. Les chignons et tout y passe. Les détails, des termes de l'époque qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà. Il passe sa vie et son temps, non à l'unique nécessaire, mais à de vains amusements, à mal faire ou bien à rien faire, à regarder et babiller, à visiter et s'habiller. C'est incroyable. On a à croire qu'il a épié, qu'il a observé pendant des heures et des heures les mondains pour voir tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, comment il s'habillait, etc. Puis après, il redigère tout ça. Les gens chantaient ça, je peux le dire après, hein. Ils se vidaient de l'esprit du monde, hein. On comprend pourquoi aujourd'hui, sur la carte des mosquées en France, eh bien c'est partout où Saint-Montfort a évangélisé qu'il y a le moins de mosquées, hein, une par département, pas plus. Alors dans les autres, il y a 10, 15, 20, 60 mosquées quelquefois. On voit bien, il a vraiment sanctifié les gens. Hein. Alors ensuite, on va continuer un petit peu, un autre, sur les jeux de hasard. Bon, au sens strict, ce serait le loto et tout ça, hein. Aujourd'hui, quoi, les trucs à gratter et tout ça, quoi. Le jeu de soi n'est pas un mal. C'est très théologique, en plus, hein. Il ne contient rien de fatal. C'est bien tout au contraire. C'est une récréation, sans effort ni contention. C'est un juste relâchement pour travailler plus fortement quand il est nécessaire. J'insiste, là, c'est des chants, ça, hein. C'est pas de la poésie qui diffusait dans des bouquins. C'est des choses que les gens chantaient. Oui. Dieu n'a pas défendu le jeu. Quand il est fait en temps et lieu, sans choquer sa sagesse, pour se délasser doucement, pour se réjouir saintement, pour recréer notre prochain, pour chasser de soi le chagrin, le trouble et la tristesse. Donc il donne les différents motifs pour lesquels on peut jouer honnêtement. Des saints, quoique très sérieux, ont joué quelquefois des jeux, comme on lit dans leur histoire. Leur charité les inventait, le Saint-Esprit les y portait, c'était des jeux très innocents, charitables et compatissants, pleins de grâce et de gloire. Voici les qualités du jeu. Donc c'est quatrième strophe, ça. Les gens, ils apprenaient leur catéchisme comme ça, quoi. Voici les qualités du jeu. Pour être glorieux à Dieu, pour être salutaire, évitez les jeux de hasard, car l'âme s'y perd tôt ou tard. Les jeux d'esprit sont les meilleurs. Dieu les aime en ses serviteurs qui jouent pour lui plaire. Le jeu ne doit pas être ardent, mais modéré, doux et prudent, dans un temps convenable, sans dispute, plein de douceur, sans injustice, plein d'honneur. Modeste sans captivité, sans intérêt et d'iniquité, honnête et charitable. Au lieu des cartes et des dés, prenez les dames ou les échecs et des jeux de la sorte. N'y jouez pas à tout moment, mais en certains lieux, en certains temps. Avec quelque ami du bon Dieu, pour l'or on vous permet le jeu et même on vous y porte. Mais combien de jeux défendus, combien de gens s'y sont perdus, sans en voir la malice. Les jeux de hasard sont trouvés par le diable et les réprouvés pour perdre le temps précieux, donné pour acquérir les cieux, en faisant la justice. Autant au don du Saint-Esprit, au prix du sang de Jésus-Christ, autant d'un prix immense, joueur de cartes et de dés, quand tu mourras mille regrets d'avoir ainsi perdu ton temps en tes jeux et vains passe-temps sans faire pénitence. Vous voyez, là, il montre une des misères du jeu de hasard, c'est la perte de temps. On perd son temps dans quelque chose, dans du vent, alors que Dieu nous a donné ce temps pour nous sauver. Si les damnés dans les enfers avaient une heure que tu perds, vous voyez, compare une heure en enfer, si on peut le comparer, à une heure de jeu perdu, quoi. Si les damnés dans les enfers avaient une heure que tu perds, suivraient-ils ta folie? On les verrait pleurer, crier, jeûner et se mortifier. Ah, que ferait-il s'il l'avait? Tu l'as, fais donc ce qu'il ferait le reste de ta vie. Ça, c'est Saint Ignace. On doit faire maintenant ce qu'on voudrait avoir fait sur son lit de mort. Si j'étais damné et que j'avais une heure de temps pour me sauver de ce temps que les mondains perdent à jouer, qu'est-ce que je fais? Ben, je ferais tout pour me sauver. Un joueur est toujours troublé, inquiet, changeant et déréglé, de même que sa chance. Il perd par son esprit de gain. Ça, c'est fin, quoi, hein, niveau psychologique. Il perd par esprit de gain. La charité pour le prochain, il ne cherche qu'à l'attraper, qu'à le surprendre et le tromper sans aucune indulgence. Que de péché fait un joueur, des mains, de la bouche et du cœur, sans presque qu'il y pense. Des blasphèmes, des jurements, des crises et des emportements, mille mensonges déguisés, mille larcins fins et rusés, la haine et la vengeance. Un joueur passe dans son jeu. Il n'est plus pour soi ni pour Dieu. C'est le jeu qui l'entraîne. Là, il montre la passion, quoi. Comment on est pris par le jeu. Dans le jeu sont tous les transports, toute son âme et tout son corps. C'est pour lui seul qu'il est actif. C'est de lui seul qu'il est captif. C'est sa cruelle chaîne. On croit gagner au jeu du bien. On croit au jeu gagner du bien. Mais tant s'en faut, on perd le sien. C'est ce que l'on éprouve. L'argent gagné par un joueur, n'étant point béni du Seigneur, tôt ou tard fait mauvaise fin, les saints l'appellent un larcin, mais le plus fin qu'on trouve. Un joueur ami du brûlant est un fin voleur de Satan, mais un voleur véritable qui vole ses pauvres enfants. Sa femme et ses pauvres parents, croyant que son bien est à lui, il meurt avec le bien d'autrui au malheur déplorable. Là, il montre des mots du jeu d'argent, c'est de ruiner la famille, quoi. Il est pour Dieu plein de froideur, plein de paresse et de tiédeur pour le bien de son âme. La messe dure trop longtemps, il s'éloigne des sacrements. Méchant, durci et paresseux, il roule, il va de jeux en jeux et des jeux dans les flammes. Les joueurs sont des bouts de feu, des fainéants, des scandaleux en toute république. Ils montrent toute iniquité en enseignant l'oisiveté. Ces jeux publics et les brûlants font périr quantité de gens, c'est la perte publique. Les rois ont défendu les jeux sous des châtiments rigoureux, comme une fine peste. Les conciles par leurs canons, les saints-pères par leur raison, lancent anathème contre eux, malgré tout le monde en tout lieu, mais le poison funeste. Vous voyez, il cite la tradition. Monde trompeur, retire-toi, tu ne me feras pas la loi par tes jeux diaboliques. Avec toi, jamais nulle part, malheur à tes jeux de hasard, malheur même à tous tes joueurs, afin d'éviter leur malheur, j'évite leur pratique. C'est assez court, il n'y a que 18 versets, 18 couplets, pardon. Alors après, il y a un deuxième piège, c'est la danse et le bal. Mettons la musique moderne et puis les booms, les soirées dansantes, tout ce que vous voulez, quoi. Alors il faisait sur des airs à la mode, il marquait sur l'air la bergère que je sers, donc c'était un cantique à la mode. Alors on changeait les paroles, puis on chantait. Donc on connaissait déjà l'air, il n'y avait pas besoin d'apprendre les airs. Alors on va lire ça. Le cantique numéro 31. 5 à 9. On veut me perdre, Seigneur, par le piège de la danse. Coupez ce piège trompeur qu'on tend à mon innocence. Les mondains dansent malgré vous, ô Seigneur, secourez-nous. Voici l'encens de Vénus et son école agréable. Voici le jeu de Bacchus et voici le cercle du diable. Voici sa belle invention pour notre perdition. Oui, Satan est l'inventeur de la danse malheureuse. Il est le premier auteur de cette peste joyeuse pour damner bien joyeusement et comme insensiblement. À la danse, il est le roi. C'est là qu'on lui fait hommage. C'est là qu'il donne la loi d'un joyeux libertinage. Il a pris séance en ce lieu, il a son trône au milieu. C'est lui qui met tout en train. En ce maudit exercice, il y glisse son venin et sa flamme et sa malice. C'est de lui que vient le désir et le funeste plaisir. Il anime les danseurs à danser, chanter et rire. C'est là qu'il gagne les cœurs et les corps et son empire. Il en fait tous les mouvements, tous les pas, tous les tournoiements. Ça, c'est très beau. Il se glisse dans la voix pour chanter de bonne grâce. Il anime le hautbois pour chanter sans qu'il se lasse. Il y fait tous les agréments et les sons des instruments. Donc il dit que c'est vrai, il montre comment le diable orchestre tout, quoi. Il se glisse dans les corps des danseuses et des danseuses pour leur donner des transports de ces flammes amoureuses. Il conduit les pieds et les yeux de ces pauvres malheureux. Leur corps est tout déréglé, leur esprit est sans lumière, leur cœur est ensorcelé. C'est ce que le diable opère, leur faisant nommer scrupuleux ceux qui ne font pas comme eux. Le démon chez les païens, à ce tribut ordinaire, il n'en cherche pas les biens, mais qu'il danse pour lui plaire. On tient que Satan leur promet pour danser quelques bienfaits. Les sorciers dans les sabbats, ont dit-on cette pratique. Ils font après leur repas une danse diabolique. C'est lançant le culte fatal de cet esprit infernal. Presque tous les réprouvés croient la danse permise, mais ceux qui seront sauvés, les vrais enfants de l'Église, l'ont tous en exécration, en abomination. En parlant en général, la danse est indifférente. De soi, ce n'est pas un mal. Elle peut être innocente. Car David dansa de ferveur devant l'arche du Seigneur. Il reprend l'Écriture sainte. C'est l'objection classique, hein, que j'ai déjà entendue, moi. Ah oui, mais je ne sais plus pourquoi, il y avait... voilà, typique. Donc, c'est aujourd'hui, à Rome, donc, il y a eu à Rome, donc c'est une institutrice de Leirich et dominicaine, Mlle Cornec, pour ne pas la citer, qui a vu à Rome, au pèlerinage romain avec l'abbé Boivin, des bonnes sœurs qui dansaient sur la confession de Saint-Pierre. Alors on critique ça, et on lui dit, bah oui, David a bien dansé devant l'arche. Voilà, Saint-Louis de Montfort. C'est rien de nouveau sous le soleil. Voyez. Car David dansa de ferveur devant l'arche du Seigneur. Mais pour danser sans péché, il faut tant de circonstances qu'on ne peut pas s'empêcher d'offenser Dieu dans les danses. C'est un mal ordinairement, c'est un grand dérèglement. La façon, le temps, la fin, et la personne qui danse y jette tant de venin qu'on y perd son innocence. Le malheur suit tous les danseurs et même les spectateurs. Comment vient-on au malheur de ce fin libertinage? Avec poudre de senteur, avec fard sur le visage, avec de fines nudités, le luxe et les vanités. Hélas, comment danse-t-on? La manière en est infâme, tout inspire le poison d'une très pure, d'une très impure flamme. Ces regards si doux et perçants, ces mouvements si pressants, les pas sont si mesurés, les cadences sont si belles, les acteurs si bien parés, les chansons si nouvelles. Qui pourrait s'empêcher d'aimer, de brûler et d'enflammer? C'est une psychologie consommée. Que dire de ces baisers qu'on donne pour la clôture, de ces cruels messagers, d'une flamme tout impure? Sont-ils pas les sceaux du démon qu'on imprime qu'en son nom? On sait bien par quel motif on danse pour l'ordinaire, ils sont cachés mais lascifs. On veut aimer, on veut plaire, émouvoir ou bien être ému, ou voir ou bien être vu. On danse avec des chansons toutes pleines d'amourettes. On se prend aux hameçons de ces infâmes sornettes. Puis on dit qu'on a dansé, Dieu n'en est point offensé. Oui, donc c'est décrit, quoi. On danse au jour défendu, et plus qu'au jour ordinaire. Et c'est en ces temps perdus que Satan fait ses affaires. Et l'on fait du jour du Seigneur la fête du tentateur. Ça, c'est bien vu. Hein. Bien vu. Hein. Moi, tous les matins, à 5h du matin, j'entends ceux qui sortent du banique, là. Hein. C'est déjà le jour du Seigneur. Hein. C'est typique, quoi. Et là, sans compte pour rien, le temps qu'on perd à la danse, quoi qu'il soit le plus grand bien, quoi qu'il soit d'un prix immense, temps si court, temps si précieux, donné pour gagner les cieux. Et encore une fois. Si la danse en un païen est toujours très condamnable, que sera-ce en un chrétien? Oh, le crime abominable, apostat qui renonce au vœu qu'il avait fait à son Dieu. Je pense aux promesses du baptême. N'avait-il pas renoncé à toute pompe du diable? La danse a toujours passé pour la plus considérable. En dansant, il fait au Seigneur un sensible déshonneur. Danseur, masque de chrétien, Jésus-Christ n'est pas ton maître, mais Satan t'a pris pour sien. Comme un apostat, un traître, va suppôt du malin esprit, opprobre de Jésus-Christ. Voilà. Ô grand fou qui danse au bord d'un éternel précipice, sans appréhender la mort, ni Dieu, même en sa justice, à Satan l'a tout aveuglé, il tuera ce bœuf vilé. Les danseurs, dans leur transport, de bras, de pieds et de tête, et le reste de leur corps, sont moins sages que les bêtes. Les chevaux sont bien moins fougueux et bien plus paisibles qu'eux.
C'est splendide. C'est vraiment un régal de lire ça.
L'un et l'autre testament condamnent toutes les danses et menacent hautement des plus terribles vengeances. Les danseurs et les batteleurs, leurs fauteurs et spectateurs. Dieu maudit tous leurs atours, leurs parfums et leurs cadences, leurs peines pleines d'amour, leurs gestes pleins d'imprudence. Il défend de les imiter, de les voir, de les fréquenter. La danse est même un tyran, le plus fin qui soit peut-être. Elle a fait mourir Saint Jean-Baptiste, précurseur de notre maître. Ô grand Dieu qu'elle a fait de mort, et dans l'âme et dans le corps. Les saints-pères et les docteurs, les canons de l'Église eux-mêmes ont condamné les danseurs, les ont frappés d'anathèmes. Aussi bien que les batteleurs, les comédiens et les farceurs. Les hommes sont aveuglés par la danse, dit un père. Les enfants sont déréglés, ils maîtrisent père et mère, les femmes y perdent l'honneur et la grâce du Seigneur. Les danses font transgresser toutes les lois de l'Église. Elles font encore briser toute la loi de Moïse. Un danseur a perdu la foi et ne garde plus de loi. Quand on danse en quelque lieu, le ciel pleure de tristesse. Par cette offense de Dieu, l'enfer est dans l'allégresse. Tant que le saint en gémit, le pécheur impie en rit. Dieu punit fort fréquemment les danseurs de mort subite, vomissant en un moment leurs âmes déjà maudites. Tout d'un coup, des balles et des jeux, ils descendent dans les feux. Va-t'en, monde et tes amis, quoi que je vienne de dire, dire à tous qu'il est permis et de danser et de rire. Loin de moi, monde scandaleux, adieu, monde malheureux. Donc ça, les gens le chantaient. C'est des chants qui faisaient chanter. Alors, mieux, la plupart de ces cantiques étaient... C'était son sermon en cantique que les gens chantaient. Il y a des correspondances, quoi. Donc, vous voyez, donc ça, c'est ce qu'il prêchait, ça. Et ce qu'il faisait chanter aux gens. Je veux dire qu'après, les gens, ils dansaient plus. Hein. Enfin, je pense pas. Alors après, il y a la comédie et les spectacles. Ah, c'est la télé, le cinéma, tout ce que vous voulez, quoi. Il faut transposer. Hein. Alors c'est... Bon, je pourrais pas tout lire. Hein. Mais troisième piège, comédie et spectacle, sur le même air. Alors c'est le même air que le précédent. Alors combien il y a de... Combien il y a de... Donc 34 couplets. Mais alors c'est intéressant parce qu'il y a une série... Une série, donc, où il doit décrire les choses. Une série de couplets où il exhorte les pères et les mères. Une série de couplets où il parle aux baladins et aux comédiens. Je vous en prie. Une série de couplets où il parle aux prêtres. Vous voyez, il s'adresse à tout le monde, en fait. C'est très ignatien, ça. La composition de lieu, puis on s'adresse aux personnes, parole, action, c'est typiquement ignatien, ça. Là, on voit que les saintetés se rejoignent, quoi. Alors, les comédies et les spectacles. Mais que dirons-nous du bal, et des mots et des comédies, de ce trésor infernal, de toutes les infamies? C'est là que le cœur le plus dur s'attendrit pour être impur. C'est le trésor du péché, pour y savoir la méthode de le faire s'y cacher, qu'il en devient à la mode, et qu'il soit finement vêtu des habits de la vertu. On retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein. Diabolique invention, malheureuse comédie, ô cruelle illusion, ô infernal incendie. Où l'on fait tout impiété avec joie, avec gaieté. Lieu d'opéra, lieu maudit, où l'air, la voix et le geste opèrent sans contredit. Le poison le plus funeste, les beaux airs, dit-on, les beaux vers. Ô sirène des enfers. Aux sources des plus grands maux, fournaises de Babylone, où des prestiges nouveaux ont mis Satan sur le trône, ô le plus fin des hameçons, ô le plus doux des poisons. Ça, c'est des figures de rhétorique habituelle, les hameçons sous le verre, etc. Se mettre un masque trompeur, défigurer son visage, blâmer ainsi son auteur et réformer son ouvrage. C'est très beau, là. C'est sa fameuse thèse de ceux qui se fardent ou se maquillent ou je sais pas quoi, défigurent l'œuvre du créateur. Ça a été repris en vie par... Quoi, le bon Dieu vous a pas fait assez bien. Ouais. Se mettre un masque trompeur, défigurer son visage, blâmer ainsi son auteur ou réformer son ouvrage, c'est porter le sceau du démon, c'est se revêtir en son nom. Ce masque de réprouvé qui semble au diable son père, paré pour être approuvé, non c'est Satan qui veut plaire, ce maudit ainsi travesti appelle à prendre parti. Écoutez Satan parler par cet auteur qui déclame, c'est par lui qu'il s'est brûlé, le corps aussi bien que l'âme, fin serpent glissé sous les fleurs et les plus vives couleurs. Le plus parfait des acteurs, qui fait mieux son personnage, et le plus fin des menteurs, qui cache le mieux sa rage, en glissant finement au cœur le poison le plus trompeur. Chacun admire à danser cette malheureuse femme, elle va tout embraser de son amoureuse flamme, son poison paraît le plus doux, c'est le plus cruel de tous. Les yeux riants et joyeux de cette belle danseuse, son air tendre et doucereux, et de sa voix harmonieuse, porte coups et lance des traits qu'on ne rejette jamais. Les gestes, les mouvements qui fait cette baladine sont de vrais enchantements d'une malice très fine. Ses yeux, son chant, ses contours prêchent ses folles amours. On la voit, on réfléchit, le démon vient, il anime, on sent le cœur se fléchit, on tombe enfin dans le crime, puis on dit que dans le bal, on ne fait jamais de mal. C'est très beau, quoi. Il étudie là, comment on se laisse avoir, en fait. Dans l'enfer que de milliers de danseurs et de danseuses qui brûlent dans ces brasiers, dans ces flammes rigoureuses, malgré tout danser étourdi sans croire ce que je dis. il renvoie les gens dans ses buts, au père et aux mères. Malgré tous ces grands périls et ces péchés de la danse, va, père, apprendre à ton fils cette funeste cadence et lui dis, s'il est scrupuleux, qu'il le faut que tu le veux. Hein, il blâme les parents là, qui laissent faire les enfants. Hein. Mère, ne m'écoutez pas, faites danser votre fille, dressez son corps et ses pas. Qu'en dirait-on dans la ville ? Ce bel art, cette honnêteté convient à sa qualité. Sans cela, point de galant, elle sera délaissée. Sans cela, donc, il fait parler la mère, là, qui trouve des excuses pour que sa fille danse. Sans cela, point de galant, elle ne pourra pas se marier. Elle sera délaissée. Sans cela, les jeunes gens en feront tout leur risée. Il le faut pour la marier ou bien se faire crier. Menez-la vous-même au bal, afin de savoir le monde. La danse n'est point un mal, quoique le scrupule gronde. On ne voit rien qui soit méchant dans la danse et dans le chant. Fuyez ces gens scrupuleux. Ne prenez pas leur méthode, n'ayez point l'air fâcheux. Dansez, soyez à la mode. Je le veux, il faut m'obéir. Quel mal à se réjouir.
C'est toutes les objections des mondains, ça.
La fille d'un artisan a l'air grossier et champêtre. Fille, n'ayez point l'air paysan. Allez danser chez un maître. Pour avoir un air civil, bien honnête et bien gentil.
Ouais, donc là, c'est excellent. C'est excellent parce que là, il dit, mais non, regardez quelle fermière, il faut... Faut l'amener, faut l'éduquer, quoi. Faut la faire danser, vous voyez. C'est...
Le confesseur où je vais. Alors là, vous voyez, le confesseur où je vais, qui sait fort bien que je danse, n'y trouve rien de mauvais, n'en a point fait défense. C'est ainsi, malheureux parents, que vous damnez vos enfants.
Il se fustige les confesseurs scrupuleux, donc ceux qui font leur devoir. Oui.
Alors aux baladins et aux comédiens, bon, il y a toute une série après. Aux prêtres, chiens aboyants du Seigneur, saints prêtres remplis de zèle, faisons de bouche et de cœur la guerre au monde rebelle, aux danseurs, aux comédiens, pire que tous les païens. Ces aveuglés vous prendront pour des fous visionnaires, et peut-être nous diront, mêlez-vous de vos affaires. Tenez bon, aboyons toujours, Dieu nous donnera secours.
Il exhorte les confesseurs à faire leur devoir, quoi.
Si nous avons le pouvoir d'ôter les péchés du monde, il est de notre devoir d'aboyer, quoi qu'il en gronde. Puis après, s'il ne nous croit pas, d'en gémir jusqu'au trépas.
Ah, c'est ça, quoi.
On prêche, les gens râlent, soit ils se convertissent, soit ils continuent, il n'y a plus qu'à pleurer jusqu'au trépas. Quoi. C'est ce qu'il dit. Hein. Si nous n'empêchons ces jeux, donc nous, prêtres, si nous n'empêchons ces jeux, ces spectacles ou comédies, Dieu nous punira comme eux, et plus qu'eux dans l'autre vie, il faudra répondre pour tous et porter tous son courroux.
Devoir du confesseur. Alors après, il y a le... Quand c'est... Bon, c'est des conférences un petit peu plus longues qu'une heure. De toute façon, c'est assez rigolo, je pense que ça vous plaît.
Alors sur le luxe, alors là il décrit, alors là, tout y passe quoi. Les tenues, les vêtements, les meubles, la vaisselle, tout, la belle voiture, enfin il n'y avait pas de voiture, mais tout y passe quoi. Il descend tout l'un après l'autre. Dans combien de couplets, alors attendez. C'est interminable quoi. 118 couplets. Imaginez un peu nous. Avec nos trois couplets, là, les gens, c'est trop long, l'abbé, il prêche trop longtemps. Alors lui, il a prêché déjà tout ça au sermon, puis il fait chanter tout ça après aux gens, quoi, je peux vous dire. Ah là là. Bon, alors le luxe.
Voici le plus fin des pièges que le démon ait tendu, le plus grand des sortilèges, presque partout répandu. Voici la vaine parade et la sotte vanité d'un cerveau creux et malade et qui se croit en santé.
Vous voyez, elle ne mâchait pas ses mots, hein.
Voici la vaine parade et la sotte vanité d'un cerveau creux et malade qui se croit en santé. C'est le luxe en ses parures, en ses habits et ses repas, en 100 autres créatures dont on se sert ici-bas. Le luxe est ce qui surpasse un entretien modéré, dont l'homme sage se passe et dont le fou séparé.
Oui, il montre bien ce que c'est que la vertu. Quoi.
Toute la Sainte Écriture blâme ce dérèglement, et le Saint-Esprit assure qu'il en fera châtiment. Qu'il changera ses délices, ses draps fins, ses ornements, en de très rudes cilices, en de très cruels tourments. Babylone s'est perdue dans la pourpre et dans le fin lin. Tout infâme en est vêtu et fera la même fin. Par cette délicatesse, le mauvais riche périt, il fut en cette mollesse condamné du Saint-Esprit.
Ça, c'est le pauvre Lazare, là. C'est l'évangile tout craché, ça. Hein. Digéré. Et...
En différentes manières, tous les saints ont combattu cette engeance de vipère, ce poison de la vertu. Le luxe est la frénésie des gens les plus orgueilleux, c'est la vraie apostasie du baptême et de ses vœux. Dans le luxe, on ne peut être vrai disciple du Sauveur. On renonce à ce bon maître, pauvre en bien, humble de cœur. Un chrétien sans ses épines n'est qu'un membre délicat. Sans ses armures divines, il n'est qu'un lâche soldat. Dans le luxe et l'abondance, dans les habits éclatants, fantôme de pénitence, fantôme de pénitent. Le corps devient une idole dès lors qu'il est trop flatté, en son ornement frivole, un encens de vanité. Faire de sa chair pourrie son idole et son encens, quelle horrible idolâtrie, quelle injure au Tout-Puissant. Cette idole abominable vient souvent dans les lieux saints, pour y faire un trône au diable, pour accomplir ses desseins. Madame entre, place, place, à son train, à son coussin. Chacun se range, elle passe, et tous regardent son train. Voilà l'idole parée près d'un hôtel décoré. De tous, elle est adorée, Dieu n'est pas considéré. Tout le monde la regarde, le dos au Saint-Sacrement. Elle-même se mignarde et s'agence incessamment. Cette mondaine insolente a secoué toutes les lois, jusque sur sa chair puante, elle profane la croix. Cet abominable impie dispute la gloire de Dieu, et par son immodestie déshonore son saint lieu. Le luxe est un badinage dont les enfants sont trompés, un ridicule assemblage de plusieurs morceaux coupés. Tout est en double en malice dans ce misérable temps, tout est double en artifice jusque dans les vêtements. On coupe, on taille, on mélange, on falsifie, on détruit. Tous les jours la mode change, on nous trompe à petit bruit. Une beauté naturelle a de plus doux agréments que n'a l'artificiel avec tous ses ornements. Une propreté modeste, vous voyez, il décrit la vertu après. Une propreté modeste renferme un charme divin, elle n'a point cet air funeste d'un artifice mondain. Préférer le corps à l'âme, le temps à l'éternité, c'est ce que le luxe infâme fait par sa malignité. Le luxe a pour sa devise le plus fin de tous les maux, puisque c'est lui qui déguise tous les maux et les défauts. C'est la marque naturelle d'un pauvre cerveau tout creux, d'une âme superficielle et d'un esprit orgueilleux. Le luxe est des âmes lâches qui n'ont rien de vigoureux, des âmes pleines d'attaches, rampantes dans ces bas lieux. Il rend l'âme misérable, oisive et froide en tout lieu, indigne et même incapable de grandes choses pour Dieu. Le luxe rend infidèle, captif du respect humain, captif de la bagatelle, captif de l'esprit malin. Il détruit la tempérance qui modère les plaisirs, il inspire l'abondance des plaisirs et des désirs. Le luxe avec ses délices chasse la sobriété et détruit les artifices de la sainte austérité. Dans ces temples pleins de misère, de luxe et de vanité, on ne voit plus de nos pères la sainte frugalité. Il rappelle comment les anciens vivaient. Ils avaient l'âme remplie d'honneur et de simplicité, d'une sainte économie, d'une humble médiocrité. Par un secret admirable, ils joignaient l'utile au beau, le solide à l'agréable et la gloire à leur tombeau. Leur conduite était unie, simple sans déguisement, charitable sans envie, ferme sans entêtement. Sous leurs serges et leurs bures, ils cachaient plus de grandeur que nous tous sous les parures de tout ce monde trompeur. Bon Dieu, quelle différence entre nos anciens et nous ! Ils n'étaient qu'intelligence, nous sommes presque tous fous. Leur unique nécessaire était d'être vertueux. Nous ne cherchons qu'à plaire à ce monde malheureux. Ils traitaient de babioles et de vains amusements, tant d'équipages frivoles, tant de sots raffinements. Leur parure, leur richesse étaient les vertus du cœur, leur plaisir et leur tendresse étaient l'amour du Seigneur. Ils regardaient en gens sages ces ornements recherchés comme de purs badinages et des sources de péché. Un chacun vivait tranquille et content en son état, suivant le saint évangile et sans luxe et sans débat. Avons-nous leur caractère ? À nous les abandonnons. Nous n'avons plus leur manière, nous n'avons d'eux que les noms. Maintenant, mille chimères, mille petits biens trompeurs, mille soins non nécessaires font les objets de nos cœurs. Le luxe s'est rendu maître d'un nombre infini de fous. Un vain désir de paraître les anime et les conduit tous. Le luxe a confondu l'homme, l'artisan fait le marchand, le bourgeois le gentilhomme et le marquis est l'intendant. Un autre en magnificence égale un prince du sang. Peu par une humble prudence sont maintenant dans leur rang. Là, c'est contre liberté, égalité, fraternité. On doit donner à la femme d'un artisan, d'un commis, le beau titre de madame pour être de ses amis. Les moindres femmes se donnent des airs de distinction, se parent et se couronnent avec toute ambition. Elles entassent sur elles l'or, l'argent et les draps fins, la soie et les riches dentelles, les velours et les satins. Selon leur mode bizarre et leurs cortèges orgueilleux, rien ne leur semble assez rare, assez riche, assez précieux. Ces mondaines malheureuses avec leur soie et leur fin lin sont presque toutes voleuses, mais leur larcin est bien fin. Elles feront 100 emplettes pour se parer à l'envie, au lieu de payer leurs dettes et de rendre le bien d'autrui. Pour leurs habits ridicules à la mode et d'un haut prix, elles volent sans scrupule leurs enfants et leurs maris. Leur désir, leur soif ardente d'avoir de nouveaux atours a mis leur pudeur en vente et avec leurs folles amours. Leur luxe et leur arrogance ne disent jamais c'est assez, mais Dieu tirera vengeance de ces biens mal dépensés. Quelle injure et quel outrage font-elles au Créateur en réformant son ouvrage par leur appareil trompeur? Elles gâtent la nature en la voulant déguiser. Ce n'est plus qu'une imposture, qu'un piège à scandaliser. Au luxe toujours infâme, tu souilles la pureté, tu brûles les corps et l'âme du feu de l'impureté. Aux marques très évidentes d'une femme sans pudeur, ô la livrée éclatante d'une orgueilleuse laideur. Ô le grand piège des diables et leur poison amoureux, pour faire des cœurs coupables en les prenant par les yeux. Voilà leur secrète mine pour renverser le plus fort, voilà leur grande machine pour donner à tous la mort. Ils dressent leur batterie sur ce visage fardé pour en donner de l'envie lorsqu'il sera regardé. Ils ont mis avec finesse leur trône à leur vanité, ils ont leur bureau d'adresse en toute leur nudité. Pour inspirer davantage leur poison de leurs amours, ils font briller le visage, ils donnent l'astre aux atours. Ils parleront par leur bouche, ils brilleront dans leurs yeux, afin que leur éclat touche et fasse des amoureux. Ce luxe s'est fait passage dans les habits de ce temps, dans les repas, l'équipage, les meubles et les ornements. Les demoiselles vêtues dans leur habit d'arlequin se promènent dans les rues, sur leurs petits brodequins. Madame paraît enflée d'un lourd et large manteau, elle en gémit accablée sous la mode du fardeau. Voyez leurs queues traînantes, leurs beaux linges transparents, leurs étoffes différentes, à trois ou bien quatre rangs. Leurs écharpes composées de morceaux tout rapportés, par artifice plissés avec cent diversités. Leurs coiffures à triple étage, leurs beaux colliers enrichis, leur orgueilleux étalage, leurs cheveux noirs tout blanchis. Leur amadi, leur guipure, ça c'est tous les termes de l'époque. Leurs franges d'or, leurs galons et leurs autres garnitures dont on ignore les noms. Oh, quel tas de niaiseries, d'affiquets et de bibus, tous les jours ces rêveries s'accroissent de plus en plus. Des filles de Babylone, les hommes sont amoureux, chacun à son Amazone, pour se rendre malheureux. Ils imitent ces sucrés dans le luxe des habits, dans leurs perruques poudrées, dans leurs étoffes de prix. Leurs habits changent de mode plus souvent que tous les mois, et quoi qu'ils soient incommodes, ils doivent subir ces lois. Monsieur l'abbé, je vous laisse, vous déguisez, vous poudrez. En voyant votre mollesse, l'église devrait pleurer.
Il descend les prêtres, là, qui...
Les prêtres mondains. Votre soutane pompeuse, alors aujourd'hui, ce serait les...
Alors, au séminaire, c'était... Chez nous, on a une tenue. Bon. C'était alors les ceintures à franges, les demoiselles, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est ça, quoi.
Votre soutane pompeuse, votre rabat bien tiré, fait de la bonne faiseuse, votre chapeau s'illustré. Votre ceinture volante, vos beaux souliers si mignons, votre manière galante, mais en vain nous vous peignons. Le luxe s'est rendu maître de presque tous les festins, et l'on n'y voit plus paraître qu'assaisonnement mondain. L'orgueil et l'intempérance, le plaisir et la volupté, on ont chassé l'innocence avec la frugalité. Ces magnifiques services, ces vaisselles de merveille, ces ragoûts, ces artifices du plaisir et de l'orgueil. Cette inutile abondance de mets et de vins délicats, cette excessive dépense qu'on fait pour un seul repas. Enfin, mille excès de table que le luxe a recherché rendent l'état misérable et causent mille péchés.
Bon, on finirait plus, quoi.
Alors, il donne encore. Presque aucun ne suit les traces que doit suivre un vrai chrétien. On est chrétien par grimace, mais au fond, on est païen. D'où vient ce mal ordinaire? C'est qu'on veut être estimé, c'est qu'on désire de plaire, c'est que l'on veut être aimé. C'est que l'on veut suivre à la mode et suivre le train commun, de peur d'être un incommode ou de déplaire à quelqu'un. Mais si pour plaire à vous-même, comme on fait communément, pour qu'on vous voie et qu'on vous aime, vous prenez cet ornement, dès lors vous êtes coupable, indigne des sacrements, esclave et fille du diable, digne de tous les tourments. Femme brave, fille belle, que vos charmes sont cruels, que vos beautés infidèles font périr de criminels. Vous paierez pour ces âmes que vous avez fait pécher, que vos pratiques infâmes ont fait enfin trébucher. Toi qui ne veux pas me croire, en lisant ces petits vers...
Ouais, c'est beau parce qu'à chaque fois, il réfute le mondain qui dit, il exagère. Quoi, voyez, donc c'est toujours pareil.
Toi qui ne veux pas me croire, en lisant ces petits vers, j'attends sur toi la victoire quand tu seras aux enfers. Retranché à me bien né, tout ce qui ne sert de rien, et forcez-vous d'être orné du seul et souverain bien. Fuyez le monde en sa gloire et rentrez en votre cœur, que ce soit votre oratoire, votre joie et votre honneur. Fuyez le luxe funeste, mais gardez la propreté et soyez humble et modeste sans avoir rien d'affecté. Faites de votre famille votre devoir principal, formez-la sur l'évangile et n'y souffrez point de mal. Donnez-lui toujours l'exemple de toutes sortes de biens afin qu'elle vous contemple comme un miroir chrétien.
Ça c'est beau quoi, c'est en l'honneur de la mère chrétienne quoi.
Alors après, il y a tout le respect humain, il faudrait... Pff, on n'en finit pas, quoi. Des pages et des pages où il décrit comment on sait savoir par le respect humain, etc. Alors...
On est un peu là, 37. Il y a 5 cantiques, là, vous voyez, je n'ai pas abordé encore un seul cantique sur le respect humain. Je vous lis peut-être un seul, le 39, là. Non, le 150 ou 156. Le dérèglement de Rennes. Donc 156. Donc il reprend, vous savez, donc dans l'Ancien Testament, il y a le livre l'Ecclésiaste ou l'Ecclésiastique. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, etc. Donc c'est intéressant. Alors il reprend ça comme thème, comme refrain, puis alors. C'est assez court. On va terminer là-dessus. Vanité dans les biens du monde, vanité des vanités. C'est sur vos vérités, ô mon Dieu, que mon cœur se fonde. Vanité dans les biens du monde, vanité des vanités. Qu'est-ce que toute créature, ce n'est, comme il écrit, qu'affliction d'esprit, qu'un vain fantôme plein d'ordures. Vanité des vanités, donc il y a le refrain qui revient chaque fois. Vanité que l'homme est sa vie. La chair n'est qu'un peu de foin, dont on n'a point besoin. Pourquoi donc en avoir envie ? Vanité des vanités, puis il reprend. Oui, ça, c'est un livre de l'Écriture sainte, mis en vers et chanté par les fidèles, quoi. Ses plaisirs sont un tas d'ordures, ses biens un peu de métail, son repos un travail, sa gloire une fumée impure, vanité des vanités. Loin de moi ces hommes de terre, ces hommes d'or et d'argent, que ce métail changeant met dans le trouble et dans la guerre, vanité des vanités, etc. Loin de moi, gens de bonne chair, qui n'aimaient que vos plaisirs, qui suivaient vos désirs, qui n'aimaient qu'à rire et qu'à plaire, vanité des vanités, il reprend tout le temps. C'est le couplet, quoi. Le refrain, pardon. Loin de nous ces filles mondaines, ces idoles de beauté, qui par leur vanité enchantent plus que les sirènes, vanité des vanités, etc. C'est trop peu qu'un bien périssable, qu'un bien caduque et mortel, pour mon cœur immortel, il veut un bien qui soit durable, vanité des vanités. C'est vous seule, bonté souveraine, qui pouvez remplir mon cœur, vous êtes son bonheur, sans vous il est toujours en peine, vanité des vanités. Fussiez-vous avec avantage un Alexandre, un Samson, Crésus et Salomon, le cœur demande davantage, vanité des vanités. Que le monde entier se transporte dans mon cœur pour le remplir, ce cœur dans son désir dira toujours à porte, vanité, vanité. On arrête là, hein, il y a un tarissable, là, on va dire l'Angélus.